This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end.
Merci beaucoup pour le générique et bonjour à tous, bienvenue dans le club 2.0. Je suis avec Marc.
Pourquoi merci beaucoup pour le générique ?
Je sais pas, mais j'avais envie de dire merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Salut, Emric.
Salut, salut tout le monde.
Salut, Jenny.
Salut,
T'es chaud sur la NBA aujourd'hui ? T'es chaud sur la NBA aujourd'hui ?
Bah, toujours. Le truc, c'est que. Ah, mais si on parle de NBA. Ah,
okay,
bah oui, je suis chaud sur la NBA.
Faut suivre un peu les programmes.
Oui, je suis chaud sur la NBA. Bah, je suis les programmes parce que c'est un peu moi qui fais les émissions. Donc,
Et aujourd'hui, on n'a pas Quentin, mais on a Loïs. Salut, Loïs.
Oui, bonjour à tous.
Ça fait on est passé de Villefranche-sur-Saône à Tara.
Respectez
Tara. Ah, il est
Tara.
De Tara.
Igor Stara.
D'accord.
Respectez Tara. Hein. Attention. Hein. Moi, je sors les tacles. Attention.
Le même tac que Raphaël. Et c'est une super transition puisqu'on va parler du derby qui a eu lieu cette semaine, donc vendredi soir. Parce qu'on rappelle que depuis le lundi, depuis aujourd'hui, le Rhône-Alpes est rouge et bleu. Puisque l'Olympique Lyonnais s'est imposé 1-0 face à l'AS Saint-Etienne grâce à un but du Lion de Lyon, Jason Denayer. Donc déjà, est-ce que vous avez tous vu le match?
Bien sûr.
Tout simplement.
Oui. Moi, je l'ai vu avec un copain.
Moi, j'étais en loge.
Excuse-nous, ah, mais si, c'est vrai, j'ai vu.
Moi, j'étais dans
j'ai
un
vu
bar.
Sur les réseaux sociaux.
Raconte ton expérience.
C'est très drôle, j'étais côté virage sud, du coup j'ai bien pu me rendre compte que le virage sud c'était nul. Sincèrement, c'était dégueulasse leur ambiance, ils étaient 30 à chanter.
Ah non, le reste, sud, ouais, là, c'est insupportable.
Alors qu'on entendait vachement bien le virage nord du stade. Et ce qui était assez bien, parce que j'étais assez haut, la première mi-temps ça a été flagrant. C'est un peu la marotte de l'Olympique Lyonnais sous Genesio, c'est-à-dire qu'on s'est transformé en Olympique Handball Lyonnais Club, c'est-à-dire qu'on fait d'un côté à un autre, un côté à un autre, on fait un U. C'était insupportable, aucun rythme, aucun changement, aucun dédoublement, il n'y avait rien. C'était infect. Hein, voilà. Deuxième mi-temps, mieux, la sortie de Fekir a fait du bien. Parce que.
Fekir, compliqué, un match compliqué pour Fekir. Après, on rappelle quand même qu'il était touché aux adducteurs.
Bah après, ouais, il est sorti à la mi-temps. Donc,
mais ça a fait du bien parce qu'en
Quand Fekir il sort, Depay il est plus libre, il est plus libéré, donc ça a fait du bien.
Bah, le truc, c'est qu'avec Depay, Aouar et Fekir, t'as trois mecs qui peuvent gérer les contre-attaques, gérer la balle, etc. Et le truc, c'est qu'ils se marchent dessus. Fekir, Depay, ça marche pas. Depay en 10, ça a été bien mieux. Cornet a fait une très bonne entrée. Voilà. Et ça s'est vu. Jusqu'à l'exclusion de Raphaël, on les mange.
Ils d'ailleurs.
Mais après, c'est vrai que Depay, c'est un électron libre de base. C'est le rôle qu'il a avec l'équipe des Pays-Bas. Et c'est peut-être les moments où il fait ses meilleurs matchs. Donc.
Après, aux Pays-Bas, je trouve qu'il est quand même bien mieux utilisé qu'à Lyon. Jack Hooman,
après, l'équipe, elle est vachement plus battue autour de lui aux Pays-Bas qu'à Lyon.
Bah, à Lyon, elle est quand même pas mal battue autour de Depay. Hein.
Que t'as Fekir, non.
Ouais, c'est Fekir, il est super important, en fait. Ouais. Et ils jouent pratiquement au même poste tous les deux. Mm. Ils aiment faire les mêmes choses sur le terrain, donc c'est un peu problématique. On va dire que c'est un peu un problème de Rich en soi.
En première mi-temps, on savait pas qui était le faux numéro 9. Entre Depay, Memphis.
C'était plus Memphis
et
quand même.
Fekir, on savait pas.
Mais après, moi là, j'avais deux questions sur deux joueurs. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé des pertes d'abord de Lucas Touzard, qui fait un début de saison totalement dégueulasse.
Ouais, il est rentré en jeu, il n'y a rien à dire, je veux dire. Il fait une entrée après le rouge pour essayer d'un peu conserver la balle. Il a été correct. Après, Touzard, il faut l'utiliser dans un milieu à 3. Depuis le début de saison, quand il était utilisé avec un Ndombele, par exemple, en milieu à 2, quand il joue à double pivot, c'est dégueulasse. Il est dégueulasse. Et un des matchs les plus flagrants, c'est contre Offenheim, où il fait, je pense, 95% de passes en arrière. C'est un joueur qui doit être à la récupération. Il doit pas être à la création. Et quand tu es à double pivot, tu dois faire et récupération et création.
Mais tout ce que je comprends pas, c'est que ça avait déjà pas marché à l'époque où il était associé à Maxime Gonanon.
Oui, exact.
Et après, là, on retente.
C'est vraiment. On en a parlé d'ailleurs pour la première, et qui était il y a environ 6 mois. On en avait parlé pour la première et du coup Touzard, je pense pas que ça soit un problème de dispositif, c'est juste que c'est pas un joueur qui a le niveau pour être titulaire dans une équipe qui a des aspirations.
Après, il avait quand même fait des bonnes premières saisons. L'année dernière, il était bon.
Donc ce qui dit, c'est pas.
Je suis pas convaincu par Touzard, moi personnellement. Je pense que, en fait, c'est il a un profil qui a l'air de plaire à Genesio. Et du coup, il a un peu le totem d'immunité. Moi, je trouve que c'est un bon remplaçant, mais en titulaire, je ne suis pas convaincu par Touzard.
Touzard, il est bon quand tu le mets dans un 4-3-3 parce qu'il est déchargé de tout ce qui est relance, etc. Il peut vraiment faire le travail de l'ombre, qui est des récupérations, de faire du pressing. Là-dedans, il est très très bon. Moins on le voit, et plus Lyon se porte mieux parce qu'il va récupérer une tonne de ballons sans qu'on en fasse gaffe. Sincèrement, il fait un super travail. Mais vraiment, le problème, c'est que si tu le mets à deux milieux, c'est-à-dire lui Ndombele, lui Aouar, lui Papchek Diop, c'est nul parce que c'est pas un box-to-box. C'est pas un mec qui peut relancer. C'est un mec qui peut vraiment défendre. C'est vraiment plus un 6, c'est pas un 8. Donc forcément, quand tu le mets à deux avec Ndombele, ça marche pas. Ouais. Parce qu'il faut deux milieux qui puissent avancer. Et t'as que Ndombele qui va vers l'avant, donc t'es déstabilisé en attaque, il manque quelqu'un. C'est un bordel. Alors que si tu le mets vraiment à un 4-3-3, lui, tu le laisses vraiment en défense et tu peux mettre un Aouar et Ndombele qui, eux, peuvent aller vers l'avant et créer des trucs. Et là, ça va mieux.
C'est purement un problème de coaching, alors, du coup.
Je pense que c'est un problème de coaching. Après, il y a aussi un autre truc qui, pour moi, joue, c'est que Touzard n'est jamais remis en question. Par exemple, t'as un Kakré, t'as un Diop qui peuvent espérer, qui peuvent essayer.
C'est un peu ce dont je parlais.
Et c'est déjà pareil à l'époque de Gonalon, en fait. Ouais. Gonalon, il a fait une très bonne première saison, le deuxième bien. Et après, une fois qu'il était installé et qu'il bougeait plus parce qu'il était capitaine, il était infect. Oui. Sa dernière saison.
Enfin, surtout sa dernière saison.
Son match allé contre l'Ajax, je me rappelle.
Non, sa saison entière, il est dégueulasse.
Ouais, mais c'est un match à
revenir. Il récupérait pas les ballons, il relançait mal aussi.
Après, c'est vrai que pour revenir à Touzard, de ce que j'ai vu du début de saison, je préférerais nettement un Papchek Diop
même Maxence Kakré qui a fait un très bon des bons matchs amicaux.
Je te rappelle que si Genesio sort un jeune par année, c'est déjà le bout du monde. Alors non, pas
après
trop,
ça parlait de l'arrivée d'Andreas Samaris à Lyon.
Alors ça faut arrêter
pour le coup, faut voir, mais
c'est le Jordan Ferry grec, c'est bon, c'est pas la peine de prêter Ferry à
Ferry. On a enfin pu s'en débarrasser d'ailleurs.
Non mais ça sert à rien, si c'est pour prendre un mec qui met des pains et qui est grec, ouh super.
Et
ça
du va, coup je pense qu'on va s'arrêter là pour tout ça.
Du coup t'avais un deuxième joueur.
Ouais, j'avais un deuxième joueur que j'aime beaucoup mais qui est pas au top niveau depuis qu'il est arrivé à Lyon, c'est Moussa Dembélé. Justement, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce joueur depuis qu'il est arrivé à Lyon. Est-ce qu'il vous déçoit ou est-ce que voilà, faut lui laisser un peu de temps, il est jeune, etc.
Alors,
moi je trouve qu'il se crée des occasions de but et tout, donc bon, après ce qui il déçoit parce qu'il marque pas de but, c'est surtout pour ça, mais il se rend disponible.
4 buts, il me semble, avec Lyon là, 4 ou 5.
Il se rend disponible déjà, techniquement, je trouve qu'il est à l'aise, physiquement, il pèse sur la défense adverse, sur les défenseurs adverses. Donc pour le moment, je suis pas vraiment déçu, même si on attend un petit peu plus de buts quand même.
Louis, toi, tu le connais bien pour l'avoir vu jouer avec le Celtic, je pense.
Le problème, il a été flagrant et c'est un des gros problèmes depuis qu'il est arrivé, c'est que t'as un mec qui est seul en pointe et personne joue avec lui. C'était hyper flagrant vu un peu plus de haut, parce que c'est vrai qu'à la télé, on est vraiment des gros plans, etc. Vu de haut, tu le vois, il fait des appels, il va presser, il essaye de bouger, machin, et en première mi-temps, il avait rien. Il a rien eu. Je pense que s'il a eu un ballon en première mi-temps, c'est parce qu'il y a un dégagement de Lopez sur sa tronche. Sinon, il a aucun ballon. Donc le pauvre, il essaye de se bouger, il essaye d'avoir des de se créer des occasions, etc. Mais si on joue pas avec lui, il court dans le vent. Et tu vois, et forcément, quand t'es attaquant, tu cours dans le vent, bah évidemment, c'est relou pour lui, je pense. Et en deuxième mi-temps, avec Cornet, il a essayé de plus décrocher, il a plus participé, parce que forcément, il s'est dit, soit je redescends et j'essaie de participer, soit je continue à faire ça, et avec Cornet, ça allait faire deux qui allaient courir dans le vent, et ça allait pas être possible.
Du coup, c'est un peu le même problème qu'on avait en début de saison dernière avec Mariano, en fait. Qui avait très peu de ballons, mais le peu qu'il avait, il essaie comme de les bonifier au max.
Mais
il avait plus de réussite.
Oui, après,
Mariano,
c'est pas le même profil.
Après moi, je suis d'accord avec Louis qu'on peut pas trop accabler Dembélé vu la conjoncture actuelle. Et moi, Dembélé, c'est un joueur que j'aime bien, même à son époque au Celtic. Franchement, je trouvais que c'était un bon joueur avec un bon petit potentiel. Et il n'y a pas de problème. Franchement, Dembélé, je ne me fais pas de soucis pour lui. Il va mettre ses 12-15 buts en Ligue 1. Moi, franchement, je ne me fais pas forcément de soucis pour lui. Mais c'est vrai que il a un peu le syndrome Gomis, dans le sens où il lui faut 4 occasions franches pour en mettre un, en fait.
Ouais, et enfin, quand tu regardes comme synthé, il a eu une action.
Ouais, pour le coup,
Si tu prends le match contre Fenerbahçe, Dembélé, faut avouer que quand même, il vendange un peu. Après, c'est un joueur que j'aimais, je me fais pas de soucis pour lui en Ligue 1. Il va mettre son petit quota de but. D'ailleurs, il est déjà sur, comme t'as dit, il en a mis 4
ou 5, ouais, il me semble.
Donc, il a déjà un bon petit ratio.
Au total, un pack en Ligue 1.
Après, c'est vrai que par rapport à Mariano, moi, je trouve que c'est une petite régression. Il n'y a pas un écart de niveau entre les deux, mais je préférais Mariano.
Je préfère quand même Moussa Dembélé, je trouve qu'il participe beaucoup plus au jeu que Mariano.
Ah ouais,
il est comme
oui.
beaucoup plus technique, je
dans
trouve.
Dans le jeu, deux au but, mais face au but.
Ouais, et puis voilà.
Face au but, il pèse pas.
Ce que j'aime beaucoup chez Moussa Dembélé, c'est ce qu'il arrive devant le gardien. Je sais plus contre qui c'est. Il arrive devant le gardien, il décale. Me semble que
c'est Hoffenheim.
C'est contre Hoffenheim. Ouais. Alors tu vois, Mariano, il aurait tiré, quoi. Clairement. Et c'est ça qui me plaît chez Moussa Dembélé, c'est qu'il est beaucoup plus altruiste. Après, Mariano, c'était un style différent. J'aurais bien aimé voir les deux associés, tu vois. Mais
deux associés, ça aurait été horrible.
Ouais,
je sais pas ce que ça va donner.
T'as Mariano qui croque tous les ballons, qui veut marquer. Une fois qu'il a marqué, Mariano c'était le mec le plus altruiste du monde. Mais tant qu'il marque pas, il est infect. Il aurait frappé de 45 mètres pour marquer son but. Et t'as un mec comme Dembélé qui aurait couru dans le vide et qui aurait attendu des ballons que l'autre aurait pas donné. Tu mets à ça un Depay qui peut être des fois très individualiste, Fekir qui peut être des fois très individualiste. Ça aurait été horrible. Franchement, ça aurait été infect.
C'est vrai qu'on a déjà ce problème là, du coup, de l'individualisme. Mais c'est vrai que si on avait Mariano en plus, ça aurait pu. Ça aurait pu être un gros
Dembélé,
problème.
Il faut lui laisser du temps. Il est arrivé au dernier jour du mercato. Il a pas fait la préparation avec Lyon. Et avec tout le respect que j'ai pour le Celtic, une prépa avec Lyon et une prépa avec Celtic, c'est pas la même. Je pense que c'est quand même plus intense à Lyon. Même si avec le Celtic, avec la Coupe d'Europe, ce qu'ils font, etc., ça reste quand même du très haut niveau. Donc, il connaissait personne. Moi, je pense qu'il faut lui laisser encore un brin de temps pour qu'il continue à s'associer avec des Depay, etc. Quand il joue avec Depay, souvent, des fois, ça peut marcher. Alors, le problème, pour moi, ça reste Fekir. Et j'adore Fekir. Mais pour moi, Fekir, là, en plus, il revient de blessure. Quand il revient de blessure, il est infect. Enfin, il marche. il fait rien. Il est à deux à l'heure. Le seul problème, c'est que Fekir, tu sais très bien que sur un crochet, il est capable de prendre 10 mètres et d'aller faire une frappe. Donc, c'est un problème de riche, comme tu disais, parce qu'on a des joueurs immensément bons devant. Mais il va falloir réussir à les faire cohabiter jusqu'à la fin de saison.
Voilà, après au final, c'est un peu ce qu'on reproche à Lyon. C'est un peu les mots de Lyon depuis super souvent. C'est qu'en fait, c'est une addition d'individualité, en fait. De très bonnes individualités. Et au final, c'est un peu tout le monde joue de son côté. Et un autre mec à Lyon qui symbolise très bien ce processus, bah, c'est Traoré. Traoré,
je l'avais oublié.
Non, mais Traoré, tu peux le tailler dans tous les sens. Et je serais d'accord avec beaucoup de choses que tu diras, mais... il aggrave du ballon.
Ce que j'aime pas chez Traoré, c'est qu'il a un seul dribble, en fait. Il part sur le côté, il repique dans l'axe, il frappe enroulé.
Un Ghezal burkinabé. Hein,
il fait ça 15 fois par match. Quoi.
Hein c'est t'as un, dit, c'est un
Ghezal.
C'est un Ghezal burkinabé.
Il vient de se mettre deux communautés à dos en une seule
phrase. Ghezal, il avait le ballon sur un côté, il rentrait, frappe du gauche. Traoré, c'est la même.
Non, mais après ça, est-ce que tu peux vraiment le reprocher? Il y a des joueurs qui, dans l'histoire du foot, il y a des joueurs qui l'ont super bien fait, ça. Bon, après, je te dis pas que c'est le cas de Bertrand Traoré.
Le problème, c'est que Robben, ça fait 35 ans qu'il l'a fait, mais il la passe. Il l'attend très peu,
contre,
mais il la
Robben,
passe.
Il a 35 ans, donc respecte-le un peu quand même.
Mais Traoré, c'est nul.
Et Traoré, ouais, il fait tout le temps les mêmes gestes, la même frappe et tout, mais défensivement non plus, il défend pas. Il défend pas par rapport à Cornet.
Il le faisait en début de saison.
C'est vrai qu'il
propose des
défensivement,
choses.
Défensivement, il a la ramasse.
Mais
ce qu'il
défend
fait,
Cornet.
Il tente beaucoup, mais tu peux pas me dire que pour la Ligue 1, Bertrand Traoré, c'est dégueulasse. Non. Honnêtement, ouais, Traoré, il est titulaire dans tous les autres clubs de Ligue 1, à part Lyon et Marseille.
Le seul problème...
Je serais bien curieux de voir demain contre City.
Je sais pas pourquoi j'ai dit Marseille, mais...
Je serais bien curieux de voir demain face à City si c'est pas Cornet sur le couloir droit.
Non, mais le seul problème de Bertrand Traoré, c'est que quand il fait des rentrées de 6 minutes, il est déjà crevé, il peut plus tenir son défenseur.
Est très nonchalant, Bertrand
Traoré. Ça va, je veux dire, contre
Fenem. Il est pas très chalant.
Pas très chalant. Grégory Sertic, si tu nous entends.
Ah, elle est vraie. Non, mais je veux dire, quand tu regardes contre Fenem, les deux fois, il fait la même erreur. Et le pire, c'est le match retour. Il est rentré 6 minutes, il est pas capable de tenir son défenseur à la 93e. Tu vas pas me dire que c'est des efforts qui l'ont crevé et qu'il est plus lucide.
Mais après, il y a un joueur dont on parle pas beaucoup et que moi je trouve. A une belle marge de progression, c'est Martin Terrier. J'aime vraiment beaucoup ce joueur. Après, c'est pas Messi, hein, on est d'accord. Mais je trouve que c'est pas forcément un mauvais coup. Lyon, ça peut être un bon remplaçant pour le coup.
Franchement, ouais, moi j'aime bien. Sur ce que j'ai vu, c'est vraiment. Il a une bonne marge de progression, je pense. Ce qui fait plaisir, c'est vraiment. Il se donne en fait. Lui, ça, c'est pas quelqu'un que tu verras jouer en marchant. Il n'y aura pas ce problème de nonchalance comme tu le retrouves beaucoup avec les offensifs à Lyon. Donc, c'est ça qui me plaît chez lui. Après, peut-être revenir un peu sur la perf face à Saint-Etienne, au niveau collectif plus qu'individuel, du coup.
Bah après, voilà, on sait, on a été dégueulasse. Première mi-temps, c'est Merci Lopez, encore une fois, qui nous sauve deux occasions ultra chaudes, notamment la tête de Debuchy. Il fait un arrêt de la poitrine
aussi.
Ouais, mais c'est surtout celle de Debuchy où il
la voit au fond.
Il fait l'arrêt, ouais, mais on l'a tous vu au fond, je crois. Quand il fait l'arrêt de la poitrine là. Après défensivement, moi je suis clairement Jason Denayer, je trouve que c'est une belle surprise.
Par exemple, ouais.
J'étais vraiment pas chaud quand il est arrivé et
Marçal aussi, il a fait un
Marçal, par contre, c'est clairement plus possible.
Ouais.
Ce mec,
Marçal.
Qu'est-ce que vous avez contre la grue de Ponteverde? Il est extraordinaire.
Non, mais lui, c'est un Giroud défensif en fait. C'est,
non,
c'est
mais
terrible.
Critique pas Giroud avec moi. Hein. Ça va pas
Giroud, ça devient vraiment la référence
plus,
niveau, niveau lenteur et niveau.
Contre Tottenham, il a marqué là. Il a marqué. Le
3-1,
ouais. Le but de Chelsea, c'est Giroud. Hein,
ah,
qui
bah
marque.
Prolongé de Silice par Didier Deschamps.
Il a sauvé l'honneur.
Par contre, Antoine, prépare un peu tes émissions parce que là, l'animateur qui sait pas que Olivier Giroud a marqué.
Excusez-moi, j'ai pas.
C'est quand même un truc qui arrive tous les 6 mois donc.
Après,
mais bon, ouais, c'est vrai, pour revenir, on a beaucoup taclé pour revenir un peu au positif, parce qu'il y a eu un peu de positif quand même.
J'en ai pas vu des masses.
Ferland Mendy, encore une fois.
Qui prouve
masterclass
encore,
de Ferland Mendy.
Qui prouve encore qu'il
c'est
est le meilleur latéral gauche de Ligue 1.
C'est drôle, Saint-Etienne est réputé pour marquer 28% de ses buts de la tête. S'est fait prendre un but par Lyon, par Denayer, sur corner.
Très bien défendu d'ailleurs.
Et j'ai adoré la célébration de Jason Denayer, elle est juste magnifique. Oui.
Et c'est qui est sur le corner? C'est Depay.
C'est Depay.
Mais il les tire bien, Depay.
Non, il les tire bien. Pour le coup, il y a certains joueurs, surtout en Ligue 1, tu sais que pour eux, les corners, c'est juste tiré dans le tas. Depay, tu sais qu'il la place. Tu sais c'est volontaire.
Il coupe bien, Denayer. C'était une belle explosion de joie. Après, franchement, si Raphaël prend pas son rouge débile, je pense qu'il peut y avoir 2-3-0 à la fin parce que Saint-Etienne ne voit pas le joueur.
Justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu des perfs de Raphaël en ce moment parce que. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est compliqué, Raphaël, hein, ces temps-ci.
Je suis pas d'accord. Il fait toujours ses matchs. Il a toujours été. Le seul problème de Raphaël, c'est qu'il est très bon offensivement, mais des fois,
exactement,
il revient pas trop. Et ça, c'est un problème quand tu joues sur un côté que t'es genre dans un 3-5-2 et que t'es obligé de faire beaucoup d'allers-retours. Ça peut être problématique. Mais j'ai pas de problème avec ses matchs. J'ai beaucoup de problèmes avec son côté sanguin. Parce que c'est pas la première fois qu'il pète un câble, Raphaël.
D'ailleurs, Raphaël, pour info, il a dit que selon lui, il y avait même pas faute,
même pas
juste
faute,
après le match. Je crois qu'il a fait un mea culpa le lendemain, mais juste après le match, il a dit qu'il y avait pas faute.
C'était succulent, ça.
Ah, le tacle à Pierre Ménès, il était
bien pêché avec moi le dimanche. Oh là là, c'était beau.
Mais ouais, Raphaël, moi, ça me pose pas de problème. Moi, le vrai problème que j'ai, c'est pourquoi t'as recruté Dubois. Pourquoi tu recrutes Dubois, sachant que t'as Kenny Tété qui, pour moi, est loin d'être une pipe. Il faut arrêter de le faire passer pour un nulos.
Les deux, ils jouent pas.
Et du coup, justement, est-ce que pour le mercato d'hiver, il faut laisser partir Raphaël ou Tété, là?
Bah, Raphaël, il est annoncé en temps proche de prolonger. Donc, soit il le prolonge, soit il le prolonge pas. Du coup, il part libre. Parce qu'apparemment, il y avait Florian Maurice ou un autre recruteur qui était à Anderlecht pour une jeune pépite belge qui joue en défenseur droit.
J'ai
perdu son nom. Je suis désolé, je l'ai vu tout à l'heure en scrollant sur Twitter. Mais donc du coup, si on est encore sur un défenseur droit belge, ça veut dire qu'on va en virer deux, parce qu'on peut pas en avoir quatre. Ou alors là.
Mais je comprends pas parce que c'est pas le.
Après,
poste
pour le coup,
je
serais un peu plus nuancé que Loïs pour le cas Raphaël, dans le sens où ses perfs en match, je suis pas tout le temps convaincu, mais Raphaël, c'est quand même quelqu'un qui a un certain crédit au haut niveau et je peux me mettre à la place de Genesio. Quand t'es entraîneur, ça fait toujours plaisir d'avoir ce joueur, un joueur comme ça sous le coude. Et t'as toujours tendance à le cocher dans les premiers sur la feuille de match parce qu'encore une fois, il a vraiment un bagage pour ce qui est de sa carrière au haut niveau.
C'est un joueur qui amène une grinta quand même
sur le
terrain.
Ouais, est-ce que je peux rappeler juste que Kenny Tété a toujours Neymar dans sa poche droite? Par rapport à l'an passé et que lors du derby on a vu aucun Stéphanois alors que Tété était bon et qu'on le voit plus jouer, qu'il était mis au placard.
Après,
de manière incompréhensible.
On dit Tété ou Raphaël, concrètement, je veux dire la compo de vendredi contre Saint-Etienne, tu peux laisser Raphaël et tu mets Tété dans la défense à 3 à la place de Marçal et c'est
Marçal,
nickel. C'est nickel.
Ah ouais, non, mais ça fait des mois que les suiveurs lyonnais demandent à ce que Tété soit testé dans l'axe à la place de la grue de Rio de Janeiro. Mais
ou à la place de Jérémy Morel.
Oui,
le malgache.
International malgache, bien sûr.
Qui d'ailleurs a perdu contre le Soudan. Donc voilà, l'effet Morel. Mais
le pire, c'est que Morel, il risque même pas d'être titulaire à la CAN, en fait. Enfin,
c'est
bon, bref.
Bien fait.
Mais
après,
quand même. Oui, quand même, un joueur de ce niveau-là par rapport aux autres malgaches, je pense.
Ouais, mais le problème, c'est que les malgaches, ils sont déjà qualifiés pour la CAN.
Après, oui, ils ont une équipe qui s'est qualifiée pour la CAN, ouais, donc, et sans Morel. Donc,
c'est plus pour l'expérience, peut-être aussi.
Ouais, je pense.
Mais après, Tété, ça fait des mois que tout le monde dit qu'il aurait sa place dans l'axe et que, vu ce qu'on a en défense centrale, il ferait sûrement pas pire, puisqu'il a très bien vraiment le niveau. Je comprends pas pourquoi il est mis au placard, mais bon, ça c'est encore un choix du Pep du Beaujolais qui encore une fois excelle dans sa gestion de groupe, hein, vraiment top délire méga groove. Léo Dubois, je pense qu'il va être prêté en janvier. Je pense qu'il
Dubois part alors.
Bah, il joue pas et je pense que Lyon compte dessus. Donc soit tu le vends, soit tu le prêtes, soit tu le joues.
Mais Dubois, il peut pas jouer en défense à 3.
J'y crois pas je le vois bien comme un mec qui colle la ligne de touche, mais je le vois pas trop.
Je le vois peut-être piston, mais vraiment pas, pas voilà, en défense
comme,
à 3.
Comme dit Antoine, ouais, piston, mais en défense
Dubois,
à 3. Après, à voir. Hein,
Dubois, tu sens typiquement que c'est le choix, c'est le joueur que Lyon a pris juste parce que Marseille était dessus. C'est la seule raison pourquoi on l'a pris, parce qu'on n'avait pas besoin. Pour moi, ils ont vu que Marseille était dessus, ils ont dit qu'il avait un fort potentiel.
Mais pas sachant que Raphaël devait partir de base. Ouais, si, ça, je pense qu'on aurait pu en avoir besoin pour le coup.
Ouais, mais personne n'est parti à droite. Donc on a trois défenseurs droits et c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, les choix qui sont faits. Enfin, au bout d'un moment.
Il a beaucoup utilisé le terme dégueulasse.
On sent la haine du supporter.
Avec Lyon, ah, mais. Pourtant, j'ai été gentil. Hein, parce que avec Lyon, depuis 3 ans, je peux l'utiliser toutes les secondes. Hein.
Qu'est-ce que tu penses de Bruno, du coaching de Bruno Genesio?
Bah sur le match contre Saint-Étienne, ça va, je peux pas. Je
il
peux
est
pas...
dégueulasse.
Non. Bah non, l'entrée de Cornet, elle a été excellente, donc je peux rien dire.
Ouais. Après,
sur le match sur Saint-Étienne, ouais. Je peux. Bon.
J'ai pas envie d'enlever du crédit à Genesio, mais l'entrée de Cornet à la mi-temps, c'est un accident.
Il y en a du crédit.
C'est sur blessure de Fekir.
Bah, soi-disant, il est pas blessé.
Crédit, mec.
Quoi ?
Est-ce qu'il a du crédit, Genesio, de base déjà ?
Bah écoute, auprès d'Olas, oui. Auprès d'Olas, il a énormément de crédit.
Mais si Lyon gagne demain face à Manchester City, je crois que son crédit va booster.
Oui, non,
mais. Après, trouve-moi une personne sur Lyon qui croit à la victoire contre Manchester City.
Après, personne n'y croyait à l'aller non plus. Hein.
Le problème, c'est que l'aller, il y avait...
Oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que malgré le fait de les avoir tapés à l'aller chez eux, tu trouveras toujours personne qui croit en la victoire.
Surtout parce qu'on les a tapés à l'aller que personne n'y croit. Oui. Les mecs, ils vont débarquer le couteau entre les dents, ils vont nous en mettre 15. ça va, Pep, il va pas se faire piéger deux fois, hein, le Guardiola, c'est
attends,
bon.
Attends, quand tu dis Pep, il faut bien que tu précises
Guardiola.
Le deuxième Pépico de l'histoire.
Ouais. Ça va être drôle.
On va finir du coup sur le derby là. On va parler un petit peu du Ballon d'Or qui sera le 3 décembre. Donc avec peut-être plusieurs Français susceptibles d'être élus, mais en tout cas plusieurs Français dans le top 5. Je pense qu'on est tous d'accord.
Oui.
Donc pour vous, apparemment, ce serait Modric qui partirait en favori. Je trouve que c'est une injustice totale.
Enfin, apparemment, il y a eu une autre info qui était sortie, comme quoi Modric, donc c'était en tête environ à la moitié des dépouillements, et depuis Griezmann serait passé
Griezmann.
En tête.
Pour le coup, même Griezmann, je t'avoue que je suis pas totalement hypé, parce que pour moi, s'il y a un Français qui le mérite, c'est Raphaël Varane, pas Griezmann.
Bah, Grisou, il fait une super saison avec l'Atlético, il gagne l'Europa League, il est champion du monde. C'est pas choquant. Je veux dire, pour moi, les trois qui le méritent, t'as Modric qui fait une saison de porc, même si bien aidé par Cristiano Ronaldo, parce que depuis qu'il est parti au Real, Modric c'est quand même pas ça.
3-0 contre Ibar.
Varane qui fait une super saison et qui depuis voilà, c'est pareil. Et Grisou qui a fait une super saison et qui pareil, il a un peu le contre-coup aussi, je pense, même s'il reste à un bon niveau, il a un brin de contre-coup, un peu moins flamboyant mais toujours aussi efficace avec l'Atletico. Pour moi, c'est les trois qui méritent. Faut qu'on arrête de me parler d'Mbappé, il le mérite pas. Il fait une très bonne saison, mais si
Mbappé,
maintenant
top 5.
Après ouais, comme
Mbappé il mérite quand même, parce que l'année dernière, il fait 7e. Alors qu'il était méconnu un an avant.
Qui mérite ?
Mbappé.
Ah, Mbappé. Ah
bah franchement, si Mbappé le gagne, ça veut prouver qu'une chose, c'est que le Ballon d'Or est un concours de popularité. Et on arrête de le donner,
oui, mais
ça sert
c'est
à
ça.
Rien.
Mais
après, non, mais le truc, c'est que tu pourras jamais mettre tout le monde d'accord sur les critères. Comme dit Loïs, la plupart des noms qui sont cités, franchement, il n'y aurait aucun scandale si jamais il le remportait. Après, le truc, c'est que, comme je dis, voilà, tu pourras jamais mettre tout le monde d'accord sur les critères. Si tu me dis que Raphaël Varane, il le mérite, moi, je suis 100% d'accord avec toi, mais si à côté, quelqu'un d'autre me dit « Ouais, non, Varane, non, parce qu'il n'est pas si important que ça pour son équipe ou pas autant important que d'autres joueurs », bah, je te dis « Oui, t'as raison aussi, parce qu'effectivement, Varane, il n'est pas aussi important pour le Real que Griezmann est important pour l'Atlético ou que Mbappé est important pour le Paris Saint-Germain ou que Modric est important pour le Real ou pour la Croatie.
Après, Varane, il a tout gagné.
T'as vu le palmarès de Port Varane qu'il a à 25 ans.
Je dis, pour chaque candidat, tu peux trouver autant d'arguments pour que d'arguments contre. Donc, c'est pour ça que tu peux pas mettre les gens d'accord. Mais comme si ça vient vraiment à être Griezmann, franchement, Griezmann, tu regardes ses stats l'année passée, tu regardes ce qu'il a gagné. Au final, la plupart des années, il n'y aurait rien eu à dire.
Varane, il a tout gagné, ok, Coupe du Monde, Ligue des Champions et tout. Mais il n'est pas meilleur que Sergio Ramos au Real.
Oui, mais ça reste quand même un titulaire indiscutable.
Alors
du
que
Real.
Mbappé, par exemple, il concurrence Neymar au niveau des débuts, des passes D, tout ça.
Ouais, mais
il est influent au Paris Saint-Germain.
Après, faut voir les critères, voilà, les critères de sélection. Mais après, je pense qu'on est
Griezmann,
tous d'accord.
Il n'y a rien à dire aussi.
Je pense
bon.
Qu'on est
enfin, si tu continues comme ça, tu dis que Cristiano Ronaldo le mérite parce qu'il est influent au Real et que le Real, c'est de la merde depuis. Et dans ce cas-là, tu le donnes toutes les années à Cristiano Ronaldo et on arrête de faire un concours.
Bah, justement, c'est ce que la FIFA fait depuis
3 ans, 4
10 ans avec,
Messi
et Cristiano. Après, ouais. Moi, je trouve qu'on devrait juste être content, justement, que l'hégémonie de ces deux joueurs s'arrête un peu, qu'on puisse un peu souffler et qu'on puisse voir des nouvelles têtes. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu un suspense comme ça pour la remise du Ballon d'Or?
Sur 8 ans, en 2010, aucun Espagnol a le Ballon d'Or, et en 2014, aucun Allemand a le Ballon d'Or.
Bah, en même temps, il faudra déjà le gros hold-up restera Xavi / Iniesta qui n'ont pas le Ballon d'Or derrière Messi. Je sais plus quelle année c'est.
Après, il y en a eu plein. Il y a eu Ribéry, il y a eu Neuer, il y en a eu plein. Voilà.
Oui, bien sûr. Après, pour moi, ce qui dessert Varane, c'est que c'est un défenseur central et qu'il n'est pas clinquant. Ramos, tout le monde sait qui c'est. Varane, on s'en fout.
C'est que c'est un défenseur central et qu'on le veuille ou non, le poste de défenseur central, un défenseur central, la plupart du temps, il ne va pas être aussi indispensable à son équipe que le mec qui va claquer 50 buts par saison.
Je dis ça
sans dénigrer les postes défensifs. Hein, vraiment.
Mais après, le problème de Varane, c'est que c'est pas un leader en fait. À Madrid, c'est Ramos le leader.
En même temps, avec les personnalités qu'il y a à Madrid,
même en équipe, et même en équipe de France, il est un peu plus leader, mais il l'est pas totalement non plus. Moi, par exemple, quand le duo Umtiti-Varane, je suis pas sûr que ce soit Varane le leader. Après, on n'est pas dans le vestiaire, mais à mon avis, c'est pas lui.
Mais d'une manière générale, au football, on récompense le joueur le plus spectaculaire, celui qui marque le plus de buts. De toute façon, pour moi, ce sera un joueur offensif qui va gagner le Ballon d'Or. Parce que voilà.
Bah donc, le plus offensif, c'est Griezmann.
Parce qu'on regarde le foot pour voir des buts, pas pour voir un défenseur faire de beaux tacles. Moi,
oui, mais un défenseur central,
même si
c'est aussi,
beaucoup,
voire plus,
j'aime
peut-être
beaucoup
plus
Raphaël Varane.
Enfin bon, en 2006, j'étais quand même plutôt très content. Et c'était Cannavaro qui l'avait emporté pour rappel. Oui, mais au final, le truc, c'est que les critères, tu peux pas faire des critères qui vont correspondre à tout le monde.
Cannavaro, il l'a parce que Zidane met son coup de tête, hein, sinon c'est Zidane.
Mais Cannavaro, il l'a surtout parce que l'Italie gagne la Coupe du Monde et qu'il fait une Coupe du Monde énorme.
Je pense sincèrement que même si l'Italie gagne en prolongation, si Zidane prend pas son rouge, c'est lui qui l'a.
Oui,
je pense sincèrement que c'est Zidane qui le prend.
Après,
on verra. De toute façon, on peut pas réécrire l'histoire, c'est Cannavaro qui l'a eu. Mais après, oui, les défenseurs, ils sont souvent. De toute façon, défenseurs gardiens, c'est souvent les mecs qu'on donne jamais, alors que c'est tellement important dans une équipe. Parce que c'est bien d'avoir un attaquant qui te met 40 buts par saison, mais si ton équipe elle en prend 6 par match, c'est nul.
Oui, c'est ça.
Je veux dire, c'est bien beau.
Mais après, je dis pas que je suis forcément d'accord avec ce concept. C'est juste, c'est un peu la réalité de la chose.
Non, mais bien sûr. Mais c'est dommage.
Mais
c'est un truc qui est assez flagrant parce que tout le monde veut être attaquant. Je veux dire, et t'as plein de générations de mecs super attaquants. Tu vois, à Lyon, ils en ont sorti des caisses et des caisses. Par contre, des défensifs, et je prends l'exemple de Lyon, que je connais bien, un défensif, t'as qui? Umtiti qui a marqué.
Mouktar Diakabi, le roc de Valence.
Qui était d'ailleurs titulaire à Valence, Valence qui a gagné. Donc, un peu l'effet Mouktar.
Non, mais t'as Mouktar, mais après, t'as qui est sorti en défensif à Lyon? T'as personne.
Ouais, personne.
Et c'est un peu.
Nicolo Jezak.
Donc il y a personne. Et donc je pense que c'est représentatif un peu de l'état du football, c'est que maintenant tout le monde, les stars qui sont mises en avant, c'est les mecs qui sont clinquants, qui marquent des buts, etc. Alors que il faut, je pense, remettre l'aspect défensif au devant, parce que c'est pas parce que tu joues défensif que t'es pas spectaculaire. Je veux dire, une défense qui arrive à stopper quelqu'un par un placement, etc. C'est super important et c'est beau à voir le mec qui a l'intelligence de venir couper une ligne, de faire des gestes genre tu laisses le bras traîner, etc. C'est des petits gestes, des trucs comme
ouais,
ça,
après,
c'est super intelligent, tu vois.
Je suis d'accord avec toi, Loïc, c'est beau à voir, mais le truc, c'est que c'est beau à voir pour des puristes, tu vois. Et c'est comme ça dans tous les sports,
ouais,
parce qu'à la base, les sports, c'est un divertissement, c'est quelque chose, tu dois pouvoir te poser devant et être diverti. Et dans tous les sports, comme en NBA, on va pas te mettre en avant le mec qui prend 15 rebonds par match, on va te mettre en avant le mec qui met 30 points par match.
Je me rappelle,
tu peux pas réécrire la façon dont les choses sont.
Je me rappelle un truc qu'avait dit Pierre Ménez, c'est qu'il disait un mec qui connaît pas le foot, pour lui un beau match c'est un match où il y a beaucoup de buts.
Bah mais c'est Pierre Ménez qui dit ça, il connaît pas le foot lui-même, donc forcément.
Ouais, mais
je te rappelle que c'est le mec qui met dans son flop 3 un joueur qui a pas joué pour Toulouse. Il avait mis Sanogo, il voulait mettre Sangaré, cette espèce de trou de balle.
Attends, avant de critiquer Pierre Ménez, est-ce que tu peux faire 8 jongles?
le jour où lui il fait 8 jongles.
Il faut arrêter avec Pierre Ménez. Pour moi, mais justement ce que tu viens de dire, c'est problématique du Ballon d'Or. Parce que tu dis que les trucs défensifs c'est pour être les puristes. Je suis d'accord, c'est vrai que quand t'es un mec qui connaît pas le foot, t'as envie de voir des 4, des 5-4 avec des actions de fou. Je suis tout à fait d'accord. Le Ballon d'Or, c'est pas censé être un prix qui récompense justement un super joueur fait par des mecs qui connaissent le football ?
C'est ça, oui.
Et voilà.
Non, mais c'est alors exactement que, ça. Alors, t'as coup, parfaitement résumé ce que le trophée devrait être. Mais à ce compte-là, comme je te dis, tu peux jamais convaincre tout le monde parce que, ok, on s'entend pour dire que l'aspect défensif, il est pas aussi médiatisé pardon, que l'aspect défensif, offensif. Mais du coup, tu donnes une alternative qui potentiellement peut convaincre tout le monde. Tu dis, Modric, le mec, c'est pas un défenseur. Pourtant, il a une influence folle sur son club sans claquer 30 buts par saison. Et il y a des gens qui te disent non, Modric le mérite pas.
Mais justement, donc,
tu vois,
Modric,
c'est en ce sens que tu peux vraiment
Modric,
pas. Problème,
c'est, que c'est pas c'est pas une superstar, tu vois, Modric. Et je pense
mais
que ça,
pas
joue,
une superstar.
Ça joue.
Non,
là-dessus.
Mais je parlais de son poste, tu vois.
Oui, mais,
il est ni défenseur ni offensif.
Il a un poste qui fait qu'il n'est pas une star de l'équipe. Et pourtant, c'est peut-être un des meilleurs joueurs du Real Madrid, si ce n'est le meilleur techniquement. Et voilà, le problème du Ballon d'Or, c'est ce que je disais Louis tout à l'heure, c'est que c'est vraiment limite un concours de popularité, quoi. Ouais. Les gens veulent pas donner le Ballon d'Or à Modric. Parce que
parce qu'il fait le travail
plus,
de l'ombre.
Voilà. Ah, c'est ça, exactement.
Et le Ballon d'Or, c'est tout ce qui brille, c'est les stars, c'est la lumière. Donc on va
non, mais il a raison clairement.
On va féliciter, on va récompenser celui qui marque le plus de buts, celui qui fait le plus de passes décisives, celui qui a impressionné.
Puis c'est devenu comme les Oscars très clairement, le Ballon d'Or. C'est campagne de com, c'est campagne un peu de lobbying, etc. Tu le vois très bien. Un mec, enfin, plus tu parles d'un joueur, plus il aura des voix. Je veux dire. Modric, ça fait depuis la finale de Coupe du Monde, on dit il va avoir le Ballon d'Or. Donc forcément, ça joue dans la tête de plein de monde qui, même si en ayant suivi, ils se disent bon, bah, si plein de monde le dit, alors ça doit être vrai. Pareil pour Griezou, pareil pour Mbappé. Varane, il y en a eu très peu. Je pense que si beaucoup de monde dès la finale avait dit Varane le mérite et qu'il y a eu vraiment un afflux médiatique autour de Varane, je pense qu'il aurait été bien plus haut. Là, je pense qu'il va faire 4 du Ballon d'Or parce qu'il va y avoir devant Modric, Griezmann, Mbappé.
Alors qu'il a tout gagné.
Alors pour moi, Mbappé le mérite pas d'être sur le podium. Il mérite d'être 4-5, 4-5
oui.
Ça me choque moins, mais il mérite pas d'être sur le podium. Varane mériterait d'être sur le podium, mais vu qu'il y a eu moins de médiatisation sur lui, forcément c'est un cercle vicieux.
Mais l'année dernière, Mbappé il termine 7e, alors qu'il fait quoi? Il fait demi-finale de Coupe d'Europe et il gagne la Ligue.
Non, il fait pas demi-finale de Coupe d'Europe,
non.
Il est à Paris.
C'est
l'année
d'avant,
oui,
c'est l'année d'avant. Je veux dire, sa dernière année avec Monaco,
ouais.
Parce que l'année passée il est déjà au PSG.
Oui, mais il fait 4 mois.
Oui.
Il fait 4 mois.
Mais après, bon. Je vais peut-être passer pour un bisounours, mais honnêtement, c'est vraiment un sujet sur lequel c'est impossible de mettre tout le monde d'accord. Moi, le 3 décembre, j'attendrai avec impatience la cérémonie du Ballon d'Or pour la première fois depuis une décennie. Et peu importe, on cite beaucoup de noms, peu importe qui finit par l'emporter, je dirais bravo et c'est mérité. Parce que de tous les noms qu'on cite, franchement, tu peux pas dire qu'il y ait une imposture.
Non, clairement pas, non. Ils le méritent tous à des
objectifs. Pour moi, ça serait l'imposteur qui gagne.
Après, je pense
que Mbappé, c'est peut-être entre guillemets le moins méritant de tous ceux qu'on cite. Mais je veux dire, c'est pas choquant
dans
le sens où le mec, ça fait quand même un an qu'il bat tous les records de précocité possibles et imaginables. Quoi.
Il a gagné la Coupe du Monde.
Il a gagné la Coupe du Monde. En plus, il fait de bonnes prestations en Coupe du Monde. Il marque en finale.
C'est pas comme s'il avait été sur le banc pendant toute la Coupe du Monde. Il est vraiment un des acteurs principaux du truc.
J'ai envie de te dire, l'équipe de France, l'équipe
finale de
championne
coupe
du monde,
c'est personne fait ça.
L'équipe championne du monde est bâtie autour de Mbappé, quoi.
Ouais, mais pour moi,
sans la qualité en compte de Mbappé, tu peux pas bâtir une équipe comme ça.
Je suis désolé, le Ballon d'Or, ça doit être quand même la récompense d'une saison accomplie, que ce soit en champion, que ce soit en club ou en nation. Modric, il a quoi?
Je te coupe juste deux secondes.
Mais
qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais du lobbying pendant toutes ces années, que ce soit en 2010 ou en 2014, qui disait la Coupe du Monde doit primer sur tout, l'euro doit primer sur tout. Donc,
j'ai toujours dit que c'était con. Hein.
C'est
débile.
C'est en ça que je te dis que tu peux vraiment pas. Tu peux vraiment pas.
Non, mais imagine juste un truc. On prend un exemple, une utopie totale. Imagine cette année, c'est le Cameroun qui est champion du monde. Je dis n'importe quoi. Hein. Et le meilleur joueur de la Coupe du Monde et de loin, c'est Arnaud Djoum qui joue à Heart of Midlothian. Je dis ça parce que j'ai le club. Hein. C'est juste.
Oui,
c'est une utopie. On
il
sait
a fait
très
son
bien.
Placement, c'est bon.
Non, mais juste. C'est juste pour prendre un exemple. Imagine donc le Cameroun gagne la Coupe du Monde et c'est un joueur d'un championnat écossais qui est le meilleur et alors il marche sur l'eau. Hein. Imaginons il fait 15 passes D, il fait un truc de porc. Tu vas lui donner le Ballon d'Or juste parce qu'il fait une bonne Coupe du Monde?
Après je t'avoue que ce scénario il est super dur à imaginer.
Non mais je prends exprès un cas extrême juste pour qu'on se rende compte de la débilité de prendre juste la Coupe du Monde comme étendard.
Non mais bon après c'est vrai que le reste ça doit compter mais sauf que là dans la conjoncture actuelle la réalité c'est que là il s'avère justement qu'en fait le meilleur joueur de la meilleure équipe championne de l'équipe championne du monde il joue dans un grand club et il fait des grosses perfs en club.
Ouais, c'est Griezmann.
Oui, bah, bon,
Griezmann, non, le ça
mérite.
Pas été Griezmann,
mais Griezmann le mérite. Moi, pour moi,
Griezmann, ça n'a pas été Griezmann le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Côté français, il y a eu mieux, je trouve.
Enfin bon, au final, je pense qu'on ne pourra pas tomber d'accord. Non. Mais peut-être faire un petit tour de table pour savoir chacun quel
ouais,
est
ouais,
votre,
tu comptais finir. Vas-y,
Mouric. Votre lauréat.
Ouais, moi, pour moi, le Ballon d'Or, c'est quelque chose pour, qui récompense celui qui impressionne. Sur l'année, cette année, c'est de l'année dernière, saison dernière, Mbappé, il m'a impressionné et c'est pour ça que je voterai. Si j'avais l'occasion de voter, Mbappé.
Et du coup, voilà, je comptais finir sur un petit tour de table où chacun dit son favori. Donc, Aymeric, tu nous l'as dit, c'est Mbappé. Gianni, pour toi, ce serait qui, du coup? Pas forcément qui le mérite le plus, mais qui, toi, t'aimerais voir, en tout cas.
Qui, moi, j'aimerais voir? Alors, un peu par chauvinisme, je vais citer un joueur français. Parce que, franchement, c'est vraiment l'année ou jamais pour récompenser un Français, je me dis. Et moi, j'aimerais beaucoup Griezmann.
Ok, bah moi pour le coup c'est un peu pareil, mais de manière un peu plus objective, comme j'ai dit, j'aimerais bien que ce soit Raphaël Varane, parce que je trouve qu'il le mérite. Il a été bon pendant la Coupe du Monde, il a été bon avec le Real Madrid, il gagne la Coupe du Monde, il gagne la Ligue des Champions. Donc pour moi ce serait clairement pas choquant que ce soit Varane qui le remporte.
Franchement là c'est énorme parce que Louis il a donné son podium tout à l'heure du coup, et je crois qu'on va avoir 4 lauréats différents.
Non, moi je milite depuis la finale de Coupe du Monde.
Et c'est vraiment pas fait exprès pour le coup.
Je milite pour depuis la finale de Coupe du Monde pouvoir trouver mes tweets, mais bon ça remonte à longtemps. Je milite pour Varane. J'ai toujours dit que Varane méritait pour moi et que s'il l'avait pas, je pense que ce serait une grosse déception parce que ça fait même sans prendre cette saison là, ça fait 3 saisons quand même qu'il gagne avec des champions avec un Real et qu'il est le patron de la défense avec Ramos. Et quand même, faut quand même être le patron quand t'as 22, 23, 24, 25 ans, ce qu'il reste jeune. Coupe du Monde, la tête de Varane dans les daronnes uruguayennes, on s'en souvient. Hein. On va quand même pas goûter de notre plaisir. Enfin, pas bouder notre plaisir.
Goûter
notre je le goûte aussi, moi, mon plaisir, il n'y a pas de souci.
Goûter donc... notre plaisir après un fact.
Ouais.
À chaque nouvelle émission, on apprend du nouveau vocabulaire.
Mais ouais, pour moi, Varane le mériterait. Après, comme tu as dit, Jenny, pour moi, Modric, Griezmann, Varane, c'est les 3 qui le méritent. Et si c'est un des 3, je peux que m'incliner et dire bravo.
Enfin, au final, du coup, j'étais persuadé que tu allais citer Modric. Mais bon, du coup, bah, Antoine et toi, vous êtes.
On est, ouais.
Vous
on
êtes
deux pertes.
Connecté.
Du coup, petite pause musicale et on revient juste après.
Back out the tomb, bitch. Black out the room, bitch. Stop all that coon shit. These niggas ain't doing shit. Them niggas ain't doing shit. Come on, homie, what happened? You niggas ain't breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action. Ready for action. One in the morning, and I'm zoning. I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace, but alone. But I ain't finished, I'm devoted. And you know it, and you know it. So follow me, yo, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's nowhere to slow. If I knew what I knew in the past, I would've been blacked out on your ass. God.
Et on est de retour du coup pour dans le club et on va continuer cette émission avec une petite page tennis. La magnifique finale de Coupe Davis proposée par les Français ce week-end. Donc est-ce qu'il y en a qui ont suivi ici ce malheur, ce déshonneur?
Je suis vite fait quand même parce qu'il faut suivre une Coupe Davis, surtout que c'est la dernière. Qu'on n'essaye pas de me dire que ce qui va arriver après c'est la Coupe Davis. Hein. Gérard Piqué, merci d'avoir tué une des plus belles compétitions de sport qui existait depuis des années.
Toujours dans les bons coups, lui.
Oh, bah, tu sais, hein, dès qu'il s'agit de faire de la merde.
Ouais, pour le coup, vu avec qui il a fondé une famille, ça doit être un bon coup. Je pense.
Et on la salue. Après, bah, la Coupe Davis, pour moi, il n'y a pas de surprise dans la défaite, parce que l'équipe croate était meilleure. Pour moi, là où Noah s'est merdé, c'est de mettre Chardy de son gars en premier jour. Ouais. Parce que je pense que Chardy était trop loin et que Pouille aurait été un peu. Je pense aurait pu clairement challenger un peu mieux que Chardy au premier match. Et alors Tsonga, je comprends absolument pas. Déjà, je suis pas objectif, je déteste ce joueur. Pour moi, il est surcoté de ouf. Et de deux, quand tu reviens de blessure d'accord. Et que t'as fait 3 matchs en 3 mois et que physiquement, tu tiens pas la route, tu fais pas un match de Coupe Davis quoi.
Après,
c'est pas le tournoi interrégional de Poule Léger Charmeau. Ça
c'est,
va.
C'est ce que je disais à Gianni quand on a regardé le match de Tsonga, c'était vendredi, je crois.
Ouais.
Comment on a pu arriver en finale avec un effectif comme ça en fait? Je comprends pas. Quand tu vois que Lucas Pouille, c'est censé être le meilleur joueur français en tout cas au classement ATP, tu dis que vraiment il y a comme un gros problème là. Et vraiment il y a aucune solution. Je vois aucune solution pour.
Bah après pour le coup, ça. Moi je pense qu'il y avait. Je dis pas que ça aurait résolu tous les problèmes de l'équipe de France, mais je comprends pas comment avec la situation actuelle, donc c'est-à-dire qu'on a le vivier de joueurs le plus faible depuis plusieurs années, Yannick Noah. Il ait pu se permettre de laisser sur le carreau Gilles Simon. Parce que oui, pour ceux qui pensaient que Gilles Simon était blessé, non, il n'était pas blessé. C'est simplement que Yannick Noah, je cite, n'aime pas sa façon de travailler.
Gasquet était blessé.
Sachant que Gilles Simon, faut rappeler qu'il a un ratio positif contre Cilic et contre Coric et qu'en plus, il a sorti des belles prestations cette saison. Donc moi, c'est vraiment de Gilles Simon que j'ai pas compris en fait.
Moi, j'aime pas trop les tennismen français de base parce que je trouve que mentalement, ils sont... pas assez fort. J'ai pas envie de dire trop faible.
Surtout Lucas Pouille qui est très faible mentalement.
Pas assez fort. Leur mental n'est pas assez fort par rapport aux tennismen étrangers. Bon, pour les citer, Nadal, Djokovic, les meilleurs quoi. Mentalement, en plus d'être bon physiquement, c'est du solide. C'est du solide.
Après voilà, il y a pas grand chose à dire sur ça.
Mentalement, en France, les tennismen français, ils sont très 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 déçus.
Il y a pas grand chose à dire sur cette finale. Alors, personnellement, je savais qu'on allait se faire squasher. Je pense que tout le monde le savait concrètement.
Ça place des gros termes catchesques en parlant du tennis.
Là, mais clairement,
ça va traiter les joueurs français de jobber.
Je veux dire, quand tu vois son gars pleurer après son match, enfin voilà, c'est pas une surprise que tu te fais sweep quoi. Clairement.
Enfin, c'était pas un sweep pour le coup.
Ouais, non, mais je veux dire qu'il s'est fait,
quand même le double. On a pris le double, laisse-le nous.
Bah, surtout qu'on a des meilleurs doubles au monde.
Oui, bah là, je m'inquiétais pas du tout pour la paire de doubles parce que on sait qu'ils sont au niveau. Mais le reste, il y a même le pire c'est qu'il y a même pas de relève en fait. Ça parlait de Manarino et tout, Manarino, je le trouve pas si exceptionnel que ça.
Manarino il a 35 ans, j'ai l'impression que j'entends ce nom depuis des années.
Non, il a quel âge Manarino là?
Je vais regarder, attends. Parce qu'on est professionnel, on regarde en live.
21 ans.
Par contre, ouais, Manarino il a
peut-être que ça.
Bah, évidemment. Son mec, il est en 88, il a 30 piges. Manarino.
C'est vrai qu'il était beaucoup plus jeune que ça.
Non,
après,
Manarino,
en soi, 30 piges, c'est pas super, super vieux.
Oh,
oui, mais c'est vrai qu'il était
après,
beaucoup
c'est
plus
vrai
jeune que
ça. C'est pas
le tennis français, si.
C'est pas le rookie de l'année, quoi. C'est pas... Non, mais après, pour juste pour peut-être une petite idée comme ça, enfin, une petite idée de débat, rapidement. C'est vrai que Louis regrettait la... Ouais, mais vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur la finale en elle-même, Louis regrettait justement la disparition de la Coupe Davis. C'est juste, moi, je n'ai pas forcément d'opinion là-dessus, mais est-ce que ce n'était pas justement le moment de renouveler un peu le format, quoi ? C'est peut-être un peu le bouleversement. Parce que en fait, j'ai sous les yeux le parcours des Croates. Donc, il faut savoir que tous les joueurs qu'ils ont affrontés, ça ne va pas au-delà de la 30e place mondiale. Donc,
ils ont fait quoi comme parcours ?
Alors, ils ont battu le Canada, le Kazakhstan, les États-Unis en demi-finale et du coup la France en finale. Ouais. Et donc, sur ça, ça ne va pas au-delà de la 30e place mondiale. Donc, on peut se rendre compte que c'est une compétition qui est snobée un peu par l'élite du tennis. Donc, est-ce que ce n'était pas le moment d'un bouleversement, justement ?
Mais justement, est-ce que le bouleversement va faire que ça va pas être encore plus snobé ?
Bah après, il faut voir parce que il y a la nouvelle compétition, enfin nouvelle, elle existe déjà depuis quelques saisons, la Laver Cup, qui marche plutôt bien et qui est pas du tout snobée par les gros joueurs, enfin jusqu'à présent. Donc après, ça à voir. Après, oui, effectivement, c'est une question de gros sous comme à chaque fois. Mais après, moi, je me dis que peut-être à voir. C'est vrai qu'on a tendance à être réfractaire au changement, surtout que la Coupe Davis, c'est juste une institution.
Mais là, en fait,
je demande à voir pour la saison prochaine.
Non, mais ce qui est énervant avec cette Coupe Davis, c'est qu'il y avait c'était un peu une compétition qui faisait un peu rêver. Et puis quand tu vois l'ambiance qu'il y avait sur le double, 25 000 personnes qui s'ambiancent, qui donnent de la voix, c'est beau. Là, ça va être à Orlando, la prochaine édition, je viens de voir. Ça va être sur 4 jours ou 5 jours, ça va tout s'enchaîner. Il y a beaucoup d'argent en jeu, alors donc ça veut dire que les mecs vont venir parce que d'un coup il y a de l'argent en jeu et il y a plus. La Coupe Davis, il y avait cet esprit un peu où tout le monde pouvait gagner, tu vois. Tu pouvais avoir des pays qui se transcendaient parce qu'il y avait un groupe et qu'ils voulaient tout donner pour leur pays. Là, t'as l'impression que voilà, l'argent. Et c'est, tu vois, c'est ça, c'est un peu cette âme qu'il y avait. Tu vois, c'est dommage.
Non, mais après, oui, c'est comme je le dis, la Coupe Davis, c'est vraiment une institution. Après, au final, est-ce que c'est mieux de se dire, oui, bon, bah, les mecs, ils veulent l'argent, on va leur mettre de l'argent, ils vont venir, et au moins, ça va faire un truc divertissant, plutôt que de dire, bon, bah, ok, il y a moins d'argent en jeu, mais c'est une institution, du coup, ça vaut le coup d'avoir des Manarino contre je sais pas qui en demi-finale de Coupe Davis. Tu vois, après, c'est à double tranchant,
non, mais la
un peu,
Davis,
je trouve.
C'est le nom, je pense. C'est le nom, c'est une compétition.
Ouais, c'est le prestige.
Voilà, oui. Elle est prestigieuse, elle est ancienne aussi, donc ça peut faire rêver les.
Non, mais tu vois, c'est un peu comme si on disait que la Coupe du Monde de foot, elle passait à 64 clubs. Oh,
c'est
merde.
Comme si on disait
oh,
que la prochaine Coupe du Monde est au Qatar.
Ah oh, merde! Oh,
ce serait ballot quand même.
Non, pour le coup,
et qu'elle se jouera en hiver.
Pour le coup, petit aparté sur la Coupe du Monde 64 pays, je trouve que c'est complètement débile comme truc. À ce qui paraît, ça donne la chance aux petits pays, mais bon.
Après, aussi, on pourrait faire une aparté sur la nouvelle Coupe d'Europe. Je sais pas si vous avez
entendu.
Il y a un projet de nouvelle Coupe d'Europe. En fait, ce sera en dessous de la Ligue Europa.
Ouais, non, mais ça, par contre,
c'est pour favoriser les petites nations.
C'est la C4, c'est quoi ?
Bah ouais, ou la C5 alors.
Ça va être l'Intertoto.
En fait, on va avoir des.
Ça, en fait, ça se transforme en l'UEFA a été racheté par Citroën, en fait, je crois.
On va avoir quoi, des Toulouse FC Oufa.
J'espère que les clubs français.
Et du coup, les troisièmes de Ligue Europa seront reversés dans cette nouvelle nouvelle compétition.
Trop,
enfin, pour l'instant, je crois que c'est un projet. Donc,
après, moi, en fait. Moi, d'un côté, je suis pas pour parce que ça fait un peu genre consolante pour les autres clubs. Mais de l'autre, moi, ça me rapprocherait beaucoup plus du football que j'aime. Parce que
c'est la seule chance pour Hertz de bien figurer
pas,
dans une compétition européenne.
Non, même pas par rapport à un chauvinisme clubesque. C'est parce que.
Enfin, surtout moi, que t'es pas écossais, hein, donc calme-toi.
Non, mais c'est surtout que moi, je commence à être de plus en plus dégoûté de ce qui se passe dans le football mondial. Que ce soit par les Football Leagues qui balancent des infos. Sergio Ramos, on te salue, hein, tu es une belle salope. Dopé. Que ce soit par l'amas d'argent, que ce soit. Là, je suis en train de lire le livre de Romain Molina qui s'appelle La Mano Negra, qui parle des super agents, des trucs assez fous, de tout ce qui se passe, des tournements d'argent, qui parlent avec des brigands, un truc, mais horrible. Enfin, ça. Tu perds la foi au football. Et en fait, quand tu vois les plus petites nations, il y a encore un peu cette insouciance. Il y a moins d'argent, donc les fans sont encore plus, sont encore proches, t'as l'impression que c'est encore des fans et que c'est pas juste des vaches à lait, tu vois. Là, la Ligue 1, ça va devenir très tranquillement vers la première ligue. Des vaches à lait qui donnent de l'argent, il y a plus de spectacles dans les tribunes, mais les gens sont là, c'est très bien, bravo, hurrah. Et moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux des stades de 10 000 places remplis par des mecs bourrés à la bière qui balancent des chants et qui, qui trollent les voisins, des fumis, une super ambiance. Et voilà, moi, je veux qu'il y ait encore de l'insouciance. Là, on est en train de la perdre, tu vois.
On est en train de perdre notre insouciance.
Tu vois,
je pense que c'est vraiment c'est sur ce témoignage à cœur ouvert qu'on peut passer au prochain sujet.
Ouais, ouais. Ce que j'allais dire, c'est sur ce beau discours, sur ce bel alexandrin, nous allons passer au dernier sujet de l'émission. Donc, l'altercation entre Kevin Durant et Draymond Green.
Qui date un peu maintenant.
Ouais, mais qui date un peu, mais qui a encore des conséquences aujourd'hui, ouais. Vu l'état des Warriors.
Bah, vu l'état des Warriors, c'est 4 défaites d'affilée. Ils n'avaient pas connu une telle série de défaites depuis l'institution de leur coach Steve Kerr.
Tu peux nous rappeler un peu les faits du coup de l'embrouille, enfin de.
Ouais. Donc tout se passe à la fin d'un match contre les Clippers. Donc
il était une fois.
Donc ouais, tout se passe à la fin d'un match contre les Clippers. Donc la semaine passée, c'était pas il y a si longtemps, mais en NBA la semaine passée c'est l'équivalent de il y a 6 mois dans les autres sports. Du coup, fin de match très serré. Du coup, Draymond Green, sur la dernière action, Draymond Green oublie son partenaire Kevin Durant qui réclamait le ballon. Donc, du coup, le match va en prolongation parce qu'à ce moment-là, il y avait égalité. Le match va en prolongation. Les Warriors perdent le match en prolongation. Et en fait, il y a l'altercation sur le banc de touche, enfin sur le bord du terrain qui a été visible. Et d'ailleurs, il y a Kevin Durant à la caméra. On le voit, on peut lire sur ses lèvres qu'apparemment, il aurait dit « c'est pour ça que je me barre ». Mais ça, c'est juste ce qui a été vu par les caméras. Mais apparemment, ça aurait encore pris de l'ampleur en coulisses et Draymond Green aurait traité Kevin Durant de salope.
Ouais, de bitch.
Voilà. Après, on sait que Kevin Durant, c'est pas forcément le mec le plus humble de l'NBA.
Le plus
humble.
Ouais.
Humble.
Le mec qui nous a fait un mélange français Kendrick Lamar.
J'ai pas compris en fait.
C'est pas forcément le mec le plus modeste de la NBA.
Ouais. Après oui, c'est surtout pas le mec le plus aimé de la NBA. C'est même un des plus détestés.
Mais c'est
avec
lui,
son transfert chez les Warriors. Mais ce que je veux dire, c'est que honnêtement, moi j'y croyais vraiment pas à l'explosion des Warriors cette saison. Tout le monde disait oui, mais peut-être qu'avec l'amas d'individualité, etc. Moi franchement j'y croyais pas. C'était tellement la symbiose parfaite. Enfin, ça avait l'air que moi je me disais pas qu'il y aurait des perturbations et au final ça se réalise et ils sont toujours ultra favoris. Mais moi je me dis que c'est peut-être l'ouverture que tous les fans réclamaient désespérément.
Après, c'est vrai que c'est encore que le début.
Mais franchement, si jamais, même si les Warriors finissent champions, ce qui est encore très 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 probable, il y a une chose aussi qui est pratiquement tout aussi probable, c'est que la free agency de l'année prochaine, elle sera super intéressante.
Ouais. Mais d'une manière générale, clairement, c'est compliqué de gérer des égos, même pour les coachs.
Ouais,
et
justement, on voulait partir sur un débat un peu plus général sur les problèmes de vestiaire.
Il y a juste un truc qu'il faut qu'on rappelle, c'est que dans ce début de saison, rien n'a de sens en NBA. Hein.
Parce que même les Memphis Grizzlies qui sont premiers de la conf,
c'est les Clippers,
Denver Nuggets.
Denver, c'est normal qu'ils soient aussi hauts. Hein. Je veux pas critiquer, mais c'est moins choquant qu'à Memphis.
Clairement moins choquant. Après, bon, Denver, c'est plus une équipe qui va se battre pour une des trois dernières places en playoff que pour le podium. Après, bon, c'est vrai que c'est super ouvert.
Après, il faut bien qu'on remette en situation. T'as des Boston qui va paumer contre, je crois, des Atlanta ou Memphis, je sais plus. Enfin, n'importe quelle équipe qui a de l'ambition dans ce début de saison d'aller faire des trucs, ils ont tous connu une grosse période de creux, etc. Donc, on en est qu'à un mois de compétition. On sait que l'NBA, c'est ultra long et épuisant. Là, il s'est passé ça. Si dans 3 mois, les Warriors, ils sont à 15 victoires de suite et qu'ils mènent la Ligue, tout le monde aura oublié. Hein.
Non, mais ça peut être anecdotique, c'est sûr. Après, le truc, c'est que c'est pas non plus si anecdotique que ça parce que, comme je l'ai dit, 4 défaites d'affilée, ça peut paraître ouf, hein, mais c'était pas arrivé depuis l'époque Steve Kerr, en fait.
On n'a pas l'habitude
de
les voir
aussi. En fait, pour vous situer un peu, les Warriors ont le record de victoires sur une seule saison régulière. Donc, c'était il y a 2 ans. Ils avaient gagné 73 matchs, ils en avaient perdu seulement 9. Et là, ils sont déjà à 7 défaites, alors qu'on en est à qu'un mois de compétition.
Apparemment, ils gagnent sans être ouf, là. Parce que c'était compliqué, là, hier soir, là. Ils ont gagné 117 à 116, je crois.
Non, ils jouaient pas cette nuit.
Oui,
ils jouaient la nuit, là, qui arrive contre Orlando, mais ils jouaient pas cette nuit.
Leur dernier match, c'était contre qui, déjà?
Leur dernier match, ils ont... Ils ont gagné difficilement.
Je saurais pas te dire.
Bah, après, ouais, c'est vrai que.
Ils ont gagné d'un point contre les Kings la nuit d'avant.
Parce que ça va être ce match-là.
Ouais, effectivement, ouais, voilà. C'est ce match dont tu parlais.
Voilà, ouais, ce match-là.
Après, les Kings, encore une fois, Loïs disait plus, rien n'a de sens. Les Kings, c'est étonnamment très solide depuis le début de la saison.
Mais même si c'est très solide, on n'a pas l'habitude de voir les Warriors galérer autant.
Non, mais quand tu parles d'équipe qui galère, les Celtics, ils sont à 10-10. Les Celtics. Qu'on voyait tous caracoler en tête. Enfin,
les Celtics, c'était censé être les Warriors de la conférence Est, en fait. Et
les Wizards, ils sont à 7-12. D'ailleurs, tout le monde veut se faire trader. Enfin, tout le monde peut se faire trader. Ça n'a aucun sens.
D'ailleurs, en parlant des Wizards, justement, on peut rebondir encore une fois sur les problèmes de vestiaire, puisque John Wall, donc le meneur star
Jean
des
Mur.
Wizards, Jean Mur, exactement.
Jean Mur.
Donc, a traité son coach de... Non, pas a traité son coach, mais a lâché un gros fuck you à son coach pendant une séance d'entraînement. Donc,
ça
part un peu dans tous les sens.
Tu rajoutes avec le problème Butler aussi qu'il y a eu. Enfin, c'est une saison.
Oui, mais par contre, ça, c'était culte.
J'allais en parler de ce problème, justement, là, qu'il a été traité aux Sixers il n'y a pas si longtemps.
Et d'ailleurs, il a fait un gros game winner de port ce soir.
Oui, contre Brooklyn.
Ouais.
Ouais, il y a eu pas mal de problèmes extra-sportifs.
Mais franchement, Butler, c'était collector. La session d'entraînement
whipping tout le monde avec
Wolves, avec les coupeurs de citron, c'était vraiment énorme.
Mais tu vois, juste pour souligner que ça rien ne va plus, que ce premier mois c'est n'importe quoi. Les Rockets, ils sont 9e.
Ah, même les Rockets
dans leur conférence. Et
les Rockets ont reperdu leur dernier match.
OK, ici ils en sont où là?
OKC, Oklahoma, ils doivent être 4 ou 5.
Non, OKC, ils sont sur une belle série. Ils avaient fait un début de saison catastrophique, mais depuis, ils sont bien repris.
Et ils ont perdu contre Denver. Et je salue les fans de OKC. Mais le Jazz, ils sont avant-dernier. Le Jazz, ils sont avant-dernier de la conf.
Avec Rudy, pas Rudy Gobert.
Bon, oui, exact.
Ce qui est bien, c'est que t'as les Suns, ils ont à 4-15, eux, ils sont full tanking, ils sont à fond dans leur iPhone.
Mais eux, ils assument.
Oui, de toute façon, eux, c'est bien. Eux, ils perdent, on le sait, y a pas de surprise. Les Suns ont perdu, très bien.
Ouais, c'est normal.
Tout est normal.
C'est comme les Hawks. Les Hawks ont perdu, très bien, pas de problème. Mais tu vois,
les Hawks, c'est chaud quand même. Là,
Mais non, mais ils sont en reconstruction.
Mais les Hawks, ils visent absolument rien cette année. Après,
ils veulent Zion Williamson.
Je nuancerai un peu plus pour les Suns, parce que honnêtement, moi cette année, je les voyais bien mieux que l'année passée. Hein. Franchement, avec les recrues de Trevor Ariza, de Ryan Anderson, c'est quand même des vétérans qui pouvaient apporter à l'équipe sur le papier.
Ils ont eu
le premier choix de draft aussi, ouais. En plus, DeAndre Ayton. Comment?
Lucas Dante. Ah bah non.
Lucas.
Ah bah non, pas Lucas.
C'est pas lui du coup.
Non, il fait des grosses perfs.
Il est très bien parti pour être rookie de l'année.
Personne n'est surpris. Hein.
Sauf
les Américains qui.
Franchement, moi je suis très surpris de Trae Young. En parlant d'Atlanta, il est super solide avec.
Ah, c'est un jeune qui vient d'arriver en NBA cette saison.
Rookie de l'année, tu penses?
Ah oui, non, mais.
Il y a moyen.
Dozich, ouais, clairement. Après, c'était clairement annoncé. C'est comme Ben Simmons l'année passée.
Pour le coup, j'aurais bien aimé le voir ailleurs qu'à Dallas.
Ah non, c'est parfait pour lui. Il a le meilleur coach possible, c'est Dirk. Il débarque, il y a Dirk. L'exemple de réussite européenne en NBA, c'est Dirk.
Tu pouvais pas faire mieux. Enfin, la transition, elle s'écrit toute seule.
Parfaite.
Parce qu'il avait été drafté où hein? Parce qu'il était
il était drafté par Atlanta, mais ils ont fait un trade avec Dallas pour récupérer
Trae Young. Exactement.
Voilà, il a bien fait du coup.
Et c'est un choix payant parce que Trae Young aussi est super solide pour Atlanta.
Je le redis,
c'est vraiment. Si on devait faire une liste des rookies de l'année, là, maintenant, tout de suite, il arriverait deuxième pour moi derrière. Donc,
il y a celui des Celtics aussi, là. J'ai plus son nom.
Si tu penses à Tatum, il est pas rookie par contre.
Non, pas lui, un autre gars. Mais bref, je retrouverai son nom. Mais du coup, en fait, ça part clairement en débat NBA, du coup.
Bah, oui. Juste avant de terminer le débat, j'aimerais juste rappeler que lors de la draft qui va arriver l'année prochaine, il va y avoir Bol Bol, et j'adore ce nom. Le fils de Manute Bol, il s'appelle Bol. Bol.
D'accord.
Il s'appelle Bol Bol. C'est pas une connerie, il s'appelle Bol Bol.
Il est quoi, il est américain?
Bol Bol.
Oui, il est américain. Mais par contre, c'est un freak. Hein. Il fait 2m40, il claque des trucs, c'est n'importe quoi.
2m40, je pense que.
Non, j'exagère.
C'est un peu hyperbolé.
Je veux dire qu'il est.
Genre le gars de Cali en NBA, quoi.
NBA premier degré.
Non, mais Bol Bol, c'est un freak. C'est un vrai freak, c'est n'importe quoi.
Après, oui, pour revenir un peu sur les problèmes.
Il fait 2m21. Voilà.
Ah ouais, t'es pas si loin que ça.
Ouais, mais en NBA, ça se trouve.
Oui. Mais ça reste quand même.
Ça reste quand même grand. Ouais.
Ça reste quand même un beau bébé.
Un bol.
Mais non, mais pour conclure un peu, pour revenir sur les problèmes de vestiaire, c'est clair que en NBA, il y a énormément d'ego. Parce que bon, on parle de super athlètes. C'est pas juste des athlètes, c'est des super athlètes. Tu parles
des
de mecs.
Des superstars surtout.
Oui, des superstars, des super athlètes. Genre, c'est des mecs. Genre, ils courent pas après un ballon. J'ai peut-être dit un truc de grave là. Non, mais je veux dire, non, mais concrètement,
non, mais
on parle de mecs.
Sophie Lapix,
non, mais on parle de mecs qui font 120 kilos, 2m10 et qui arrivent à bondir à 1 mètre du sol.
Mais il n'y a pas de dopage.
À ce qui paraît.
Ah, bah, apparemment.
Moi, j'ai dit, de ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de dopage, mais il y a de très bons steaks.
Il y a des seringues qui se baladent un peu partout.
Ah, les steaks, oui, très bon, très bonne viande.
Les mêmes steaks que Contador, apparemment, mais
et,
tout.
Et que Samir Nasri également. Il n'a pas fait exprès de se doper, il s'est juste assis sur
il
des seringues.
Il s'est assis sur ses seringues.
Non, c'est quand même pas dit, si, il a quand même pas dit ça.
Ça, bah, il l'a pas dit,
ça,
mais.
Ça, c'est notre petite théorie. Ah,
en gros, c'était plus ou moins ce qu'il voulait faire comprendre, quoi.
Quelle angoisse.
Mais du coup, oui, il y a énormément d'ego en NBA. Vu leur position, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? Oui, sûrement. Mais je veux dire, après, ce qui se passe avec les Warriors, c'est un peu symptomatique de l'état d'esprit général en NBA, je pense. Et pour ce qui est du cas particulier des Warriors, c'est clair que c'est vraiment trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme. Mais. Apparemment, je m'approche trop de mon micro. Ouais. C'est vraiment trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme, mais c'est quand même pas si anecdotique que ça, malgré tout.
Après, voilà, on sait que les effectifs de NBA, pour la plupart, il y a beaucoup d'ego, beaucoup d'individualité. L'NBA, c'est des superstars. Après, c'est plus flagrant aux Warriors parce que c'est quasiment tous les meilleurs joueurs du pays. Mais voilà.
C'est Team USA qui a.
Bah, c'est Team USA.
Oui, oui, voilà. Mais
on
clairement,
juste
il faut.
Boogie hein, qui revient de blessure et ça va être n'importe quoi. Hein.
Clairement, il faut
ou jouer. Alors ça marche pas du tout et c'est un
oui, ou alors et puis surtout que l'option Boogie enfin de Marcus Cousins qui fout absolument qui...
excusez-moi oui continue oui.
Pardon, il y a une petite référence catch qui s'est placée furtivement, mais l'option de Marcus Cousins qui fout tout en l'air dans la conjoncture actuelle, ça devient de plus en plus crédible et ça aussi j'y croyais absolument pas au début de saison. Donc à voir.
Du coup en tout cas on va voir comment ça évolue du côté des Warriors et on va passer du coup vous avez un truc à rajouter ou
j'aurais mieux fait de garder JaVale McGee.
D'accord,
la légende,
bah,
la légende.
Le même humain.
Sur ces mots parfaits on va passer au quiz qui a été préparé par Emric cette semaine et tout,
sur
il,
une petite feuille à
carreaux. Il est
carreau.
Tout content. Attention. Avec le Stabilo et tout, il a tout préparé.
Couleurs et tout.
Ah non mais le mec est professionnel. Attends.
Du coup, qui peut faire un jingle quiz à la bouche?
C'est le quiz. Voilà.
Merci.
Donc est-ce que vous avez bien suivi l'actualité déjà?
On va essayer, oui.
Même la réplique, je crois qu'elle est marquée sur la feuille. Hein.
Tout est écrit.
Non, non, non. Tout est écrit.
Il y a une, équipe qui écrit ses fiches.
Tout est écrit dans le ciel.
Pas, elle n'est pas marquée, c'est de l'impro ça.
Alors, comment on fait? On attend la fin de la question, on dit notre prénom, comment on fait?
Ouais, on attend la fin de la question et on dit notre prénom.
Du coup, qui note les points par contre?
Bah, je pense qu'on peut le faire, non? Enfin, on peut s'en rappeler de tête, non?
Ah, tu notes, Loïs? Première question. Donnez-moi les 5 derniers pays vainqueurs de la Coupe Davis.
Gianni. Alors, la France.
La 2017, pardon.
Oui, exact. Du coup, la Croatie.
2018, oui.
La Suisse.
2014, oui. Et le dernier.
Et
les deux derniers, pardon.
La Belgique.
Non.
Allez, fail. Salut, c'est
il
tout pour moi.
Antoine.
Il reste deux.
Les États-Unis.
Non.
Allez,
non.
Salut.
Il y a 2015 et 2016.
Il y a l'Espagne et
non,
la Serbie.
Non.
Allez, c'est fini.
Pas d'Espagne, pas de Serbie.
Bon, du coup, personne n'a les points, en fait. Oui.
Bah non, Gianni, il a donné 3 déjà.
Oui, mais il a pas tout donné.
Donc donne-moi 0,5 s'il te plaît.
Allez, vendu.
Les deux autres en tout cas, c'était Grande-Bretagne en 2015.
Oui, et la merde.
Et Argentine en 2016.
Avec Jean-Martin de la Poudre.
Ah oui,
pas l'Espagne, mais l'Argentine.
La poudre. Jean-Martin de la Poudre.
Bah oui, Jean-Martin.
Voilà.
Mais oui, je suis bête.
Ensuite, deuxième question en rugby. L'équipe de France est à quel rang au classement mondial?
Gianni.
Vas-y, vas-y.
13e.
Non.
Antoine.
Vas-y.
7e.
Non.
Non. Alors, on était 8e avant le match contre les Fidji, donc on a dû perdre.
Voilà.
Donc je vais te dire 10. 10e.
Bon, je te donne le point, c'est 9e.
Non, mais là, va trouver.
Non, mais bah, là, il avait dit 8e.
Donne-lui
0,5
comme moi.
0,5, je prends.
0,5.
Ouais, c'est juste. C'est juste.
D'ailleurs, je me le suis fadé, ce match de merde. Hein. Je peux vous dire, quand on a fait 13 ans de rugby et qu'on voit ça, on a envie de se crever les yeux.
Même pas
c'est
vu,
immonde.
Je pense que
Antoine,
je
faut pas le brancher. Antoine. Loïs, faut pas le brancher, c'est un ancien rugbyman. Je pense que là, il pourrait faire une émission entière sur le 15 de France.
Et là, il finit par soulever la table.
D'ailleurs, j'ai une autre question sur le rugby. Combien la France d'ailleurs a perdu?
Mais en fait,
contre...
tu sais que c'est un quiz sur le sport en fait.
Quel angoisse! Salaud! Salaud!
Pas sur la danse,
je sors.
Pas, j'ai d'autres questions. Donc je continue ma question pour la troisième. Combien la France a perdu contre les îles Fidji?
Je sais pas, j'ai pas vu le match.
Putain, j'ai pas vu le match. Jenny?
Vas-y.
28 à
non.
13. Ok,
non,
d'accord.
Non.
Antoine,
allez, salut.
Je le vois.
22-13.
Tu te réchauffes, ça se réchauffe.
Je crois que c'est 21-14.
Voilà.
7 points d'écart.
J'étais à 2. Tu vas pas me dire quand même. J'étais à 1 point.
Donc, point pour Loris.
Loris.
Ah. Loris, ah d'accord. Enchanté.
Loïs, oh. Loïs.
Tu sais, à la fac, j'ai eu des profs qui m'ont appelé Loï.
Tu sais, ici, j'ai eu des gens qui m'ont appelé Guyani.
Loïs,
il est
pardon,
à cette table d'ailleurs.
Il est à cette table.
C'est la famille.
T'inquiète, t'inquiète.
Alors, NBA maintenant. Quel joueur s'engagera avec les Memphis Grizzlies prochainement?
Gianni. Joachim Noah.
J'attendais la fin de la question et je l'avais. Mais ouais.
Ah, mais je t'ai dit d'attendre la fin de la
donc,
question.
Un point pour Gianni. Ouais.
J'ai menti en fait.
Ça a été dit quand ce truc-là?
Ça fait pour à deux semaines.
Ah bah j'ai pas vu. Okay, très bien.
Moi je l'ai vu récemment. Hein.
Non, ouais, ça fait deux semaines qu'il y a des discussions, mais ça fait genre récemment.
Ça chauffe vraiment depuis quelques jours.
Ouais. Les discussions, j'ai vu, mais j'ai pas eu.
On salue Marie Patrick.
Après la Coupe Davis, il a dit qu'il allait rejoindre officiellement les Grizzlies.
Ah donc c'est officiel. J'avais vu les discussions, mais pas l'officiel.
Les Grizzlies de Memphis.
Il s'entraînera, je crois, jeudi de cette semaine. Ce jeudi.
D'ailleurs, qui était où avant?
Il rigole pas.
Ils étaient où avant Memphis, les Grizzlies?
Dans la forêt.
Non, mais ils étaient dans quelle ville? Parce que c'est plus logique que Memphis des Grizzlies. Ils étaient à Vancouver. C'est les Vancouver Grizzlies.
Les Vancouver Grizzlies. Merci pour ce petit.
Merci pour cette intervention.
Et voilà. Ça se connaît pas l'NBA.
Alors, question un petit peu plus difficile.
Ah merde,
c'est du foot par contre. Ah. Après le derby au LVSASSE, quel a été le titre de la une du journal L'Équipe?
Oh putain, je l'ai pas.
Ouais, je l'ai.
Gianni, le Lyon in Lyon?
Non.
Antoine, vas-y. Genesio, Ballon d'Or.
Non. C'est tout simple.
C'est un truc genre le strict minimum, un truc
voilà,
comme ça.
Voilà, service minimum.
Ouais, voilà. Un demi-point.
Non, je t'accorde le point.
Ah, il m'accorde le point.
D'accord. C'est là, frère. Ah, bah, allez. Antoine, c'est ton émission à la base. Fait quelque chose.
Non, mais au moins, il avait l'idée.
Ton émission. Je l'ai mis sur un pédestal. Là, il va plus sentir.
On parle d'Anthony Lopez. Quelle a été la note de ce gardien?
7.
Exactement.
Alors, il a pas dit son prénom. Non, je t'ai connu.
Il a pas dit son prénom.
Anthony Lopez, donc. Point pour Antoine.
Ah, t'en as fait enfin. Combien en fait?
9.
Il en reste 2.
Faut le dire quand c'est la question décisive, elle vaut 1
ouais,
milliard
ouais,
de points.
Dirais, ouais, je dirais.
C'est de récupérer ça.
La qui est boom. Actuellement le meilleur buteur de Première Ligue?
Gianni.
Vas-y.
Putain, mais je l'avais. Sergio voilà. Aguero?
Non.
Antoine?
Vas-y.
Harry Kane?
Non.
Gianni?
Attends, Loïs.
J'essaie de voir qui c'est qui peut.
Tac.
Faut penser au match d'hier.
Olivier Giroud.
Au match qui se sont passés hier.
Son? Mingson?
Non.
Gianni.
Vas-y, Gianni.
T'as dit les matchs d'hier.
Ouais.
Putain, mais hier, qui est-ce qui a... Pierre-Emerick Aubameyang.
Exactement.
Voilà.
Il a 10 buts.
Putain,
en
oui.
Première Ligue.
Après, pour notre défense, en Première Ligue, ça se tient dans un mouchoir de poche pour l'instant, les meilleurs buteurs.
Richarlison, le crack.
Aaron Moy.
Alors, avant-dernière question, on va parler de l'équipe féminine de Lyon.
Ah.
Okay, bon, ils ont gagné. Elles ont gagné samedi soir. Combien contre
4-1.
Antoine, il a pas dit son nom.
Non, bah,
mais non
plus,
tu l'as
nom.
Pas dit.
Ouais, mais non, mais...
Essaye pas de... C'est bon, hein. Je vois que les règles elles sont bafouées maintenant.
Et dernière question qui vaut 10 points, je sais pas
un
combien.
Milliard de points.
Un milliard.
Ça,
alors,
vous
voulez,
petit point score, je mène avec 3,5 devant Diani qui a 2,5 et Antoine qui a 1 point. Voilà.
Préciser. Donc la question décisive, on va dire, qui célèbre le vainqueur. Retour sur la Nation League.
Ah.
2-0.
Quel est l'âge et la nationalité, si possible, du plus vieux gardien de l'histoire de la. Des sélections européennes.
39 ans.
Non.
Gianni.
Vas-y.
42 ans.
Ouais. Et si tu peux me donner
je sais
nom.
Qui c'est, je crois.
La nationalité
ouais.
C'est hongrois.
Ou bulgare.
Non, bulgare. Voilà.
Bah, j'ai le droit à un.
Bah, alors,
tu vois, je pensais que c'était Gabor Kirali de le hongrois, moi.
Ouais, pareil. Donc, du coup,
j'sais pas
on partage
on
les
fait.
Points, là.
Ouais, partage les
on
points.
Fait, on fait 500 millions chacun.
Voilà. C'est quand même Gianni qui gagne puisqu'il avait plus de points avant qu'Antoine.
Ouais. Voilà. Allez, salut. C'est
voilà,
tout pour
vous
moi.
Vous avez bien suivi l'actualité, les gars.
C'est surtout beaucoup de pif.
Ouais, surtout. Il y a eu des points qui ont été volés, hein, genre le 4-1 de l'équipe.
Je te rappelle que tu as annoncé la note de
Après,
Lopez sans dire ton prénom.
Moi, je dis, Loïs, c'est le vétéran à cette table, il a des privilèges.
D'accord, merci.
Un peu comme l'Undertaker.
Si j'avais la même femme, ce serait pas mal aussi. Mais bref.
Petite dédicace à Michel Macoul, à Leïcoul même d'ailleurs. Donc en tout cas, voilà, merci pour ce quiz. Du coup, merci Louis d'être venu dans cette émission.
Oh bah pas de soucis.
Tu sais,
hein.
T'es toujours le bienvenu. Hein.
Ouais bah c'est... oui
puis,
oui.
Du
écoute.
Coup, petite dédicace à Quentin.
T'es toujours le bienvenu et Antoine s'engage à te payer l'essence.
Voilà. Ah bah franchement, si, si je reviens tous les soirs, tout le temps, y a pas de soucis.
Et petite dédicace à Quentin qui doit pas nous écouter.
Quentin, si tu nous entends.
Voilà,
c'est pour toi.
On espère que tu vas mieux. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Puis à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Bye. Salut. Bye. This is the end, beautiful friend. This is the end, my own.